C'était il y a presque 50 ans. Neil Armstrong devenait le premier homme à poser le pied sur la Lune. Comme si la Terre était redevenue trop étroite pour eux, en 2019, les grandes puissances relancent la conquête spatiale. Chacun rêve de renouveler l'exploit, reconquérir la Lune. Les Américains souhaitent y envoyer à nouveau des astronautes en 2024. Les Chinois veulent y construire une base d'ici 2030. Les Européens, eux, rêvent d'un village lunaire. Résultat, il y a comme un embouteillage dans l'espace. La Lune devient un terrain d'affrontement géopolitique.
L'espace qui était jusqu'ici pacifique et incontesté est désormais saturé et conflictuel. Comme le président Trump l'a dit, avoir une présence américaine dans l'espace n'est pas suffisant. Il faut mettre en place une domination américaine sur l'espace.
Dominer l'espace, question de prestige national, question de survie aussi. Dans un monde où les ressources naturelles vont manquer, les grands de ce monde s'intéressent aux ressources dont regorge la Lune, comme l'hélium-3, un gaz qui pourrait servir à alimenter les futures centrales nucléaires. Au début de l'année, la Chine a ainsi envoyé un robot sur place afin de récolter des échantillons de sol lunaire. Sur Terre comme dans l'espace, premier arrivé, premier servi.
Cela date d'il y a quelques décennies de percevoir la Lune comme une réserve d'énergie. La Lune pourrait être le golfe persique du 21e siècle.
Des explorations lunaires qui ont aussi des aires de grande répétition avant d'aller encore plus loin.
Aller vers Mars, c'est tout de suite un énorme bond. Parce que d'un seul coup, on ne voit plus la Terre, on ne parle plus avec la Terre, et plus personne ne peut venir vous secourir.
Mais sur la Lune, qui est à proximité, on peut converser et aussi on peut revenir rapidement.
Pourquoi les grandes puissances rêvent-elles à nouveau d'envoyer des hommes sur la Lune? Qui sera le premier à la reconquérir au XXIe siècle? La Lune sera-t-elle un jour habitée et colonisée par l'espèce humaine?
Pourquoi le monde entier s'intéresse désormais, s'intéresse aujourd'hui à la Lune, Alain Sirou? Pourquoi ce regain d'intérêt pour la Lune? Il y a un intérêt pour l'espace dans sa globalité, mais particulièrement pour la Lune aujourd'hui, comme il a eu il y a quelques décennies.
Parce qu'on s'ennuie. Parce que ça fait 50 ans presque qu'on tourne autour de la Terre. Quand je dis on, c'est les astronautes. Ouais. Et moi, ce que j'ai voulu faire en racontant les histoires de la Lune avec mon co-auteur, Jean-Philippe Ballas, c'était finalement raconter la folie d'une époque où les gens s'étaient mis à croire en l'exploration lunaire comme un but d'une société.
Il y a la nouvelle frontière.
La nouvelle frontière, mais qui se vivait vraiment. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit 10 millions d'Américains qui, de près ou de loin, participent à cette exploration. Et là, ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'on tourne autour de la Terre, qu'on nous promet Mars, et que Mars est dans les limbes. Et tout le monde sait aujourd'hui, dès qu'il s'intéresse un tant soit peu au sujet, que ça n'est pas faisable dans les décennies qui viennent. Donc, quel est l'objectif le plus proche? Finalement, c'est la Lune. Et la Lune, intimement, on le sait, c'est un miroir de la Terre. C'est-à-dire que dès qu'on va sur la Lune, on découvre que, d'abord, c'est pas simple d'y aller. Et ensuite, ça apporte quelque chose de nouveau.
Oui. Alors, mais là, vous parlez d'une certaine façon quasiment en poète. Mais il y a aussi des raisons plus pragmatiques, non, Isabelle Sourbès-Verger, des ressources? Trouver des ressources?
Oui, ça, je ne suis pas très convaincue par le fait que trouver des ressources sur la Lune, ça soit immédiatement exploitable, immédiatement utilisable, ni même que économiquement parlant, dans les décennies qui viennent, ça représente véritablement. Oui. Après, je pense que la Lune, et d'ailleurs, c'est très intéressant cette histoire de ressources, parce qu'à la fois, c'est un lieu qui doit continuer à faire rêver, c'est ce que dit Alain Sirou, mais en même temps, c'est un lieu où on voudrait bien commencer à faire de l'exploitation, du privé, etc. Et donc, ces ambiguïtés qui sont déjà dans la conquête spatiale d'une façon générale, on va les retrouver aussi sur la Lune. Ceci dit, moi j'aurais une réponse un petit peu complémentaire de la tienne, c'est de dire que pourquoi autant d'intérêt sur la Lune? Peut-être aussi parce que les médias, pour des raisons de calendrier, d'anniversaire, se réintéressent aussi beaucoup à la Lune, parce que vous avez eu des missions chinoises il y a 3 ans, des missions indiennes et des missions japonaises, et on en a beaucoup moins parlé. Et cette idée de course à la Lune, je pense qu'on en reparlera pas mal, mais moi c'est quelque chose qui est un petit peu gênant, parce que il y a eu une course à la Lune au moment de la guerre froide. On n'est plus dans une course à la Lune, sauf si on veut en recréer une. Il n'y en a pas.
Bon.
Pas vraiment.
Alors, il y a quand même un chiffre.
Alors, notre chiffre du jour, à propos d'une course qui n'existe pas, c'est l'objectif que s'est fixé l'administration Trump, notre chiffre, 2024, l'année où des Américains doivent à nouveau marcher sur la Lune. Xavier Pascoe, 2024, est-ce que les Américains en sont capables de tenir cette date-là?
A priori, aujourd'hui, ils ne le savent pas. Ils espéraient être capables de le faire en 2028. 2024, c'est un nouveau délai. qui met beaucoup de pression sur tout le monde, sur la NASA y compris. Il y a quelques jours, lors d'une audition parlementaire, le patron des vols habités à la NASA a dit que si jamais il pouvait le faire en 2024, sans doute, ils n'y resteraient pas longtemps. On se demande même si l'astronaute descendrait sur la surface de la Lune, parce qu'il y a tout un tas de problèmes à régler. En fait,
pardonnez-moi, on est moins bon dans les années 60-70.
On est moins prêt. Et quand on regarde ce qui s'est passé d'ailleurs pour Apollo, on a cette image d'un programme Apollo qui s'est déroulé presque sans encombre avec les drames qu'il y a eu. Mais en réalité, ça a été au jour le jour. J'allais dire un bricolage, alors ce serait rendre peu de grâce à quelque chose d'assez génial. Mais oui, ça a été quand même à chaque fois de la tension et de la solution apportée à des problèmes permanents. Eh bien là, on se retrouve un peu dans la même situation. C'est ça qui est effectivement paradoxal. On ne peut pas capitaliser sur ce qui a été fait pour Apollo, puisqu'en réalité, après Apollo, on s'est arrêté et on a fait autre chose.
Et puis, il y a eu toutes les inquiétudes autour de la navette spatiale. Enfin, il y a
la navette spatiale, qui est un programme qui est né parce que la NASA avait besoin de survivre, parce qu'elle a compris que le pouvoir politique, une fois la case de l'atterrissage sur la Lune était cochée, on n'avait plus besoin de la NASA en réalité, donc elle devait se battre pour survivre et inventer de nouveaux programmes. Ça a été la navette.
Isabelle Sorbes-Verger, dans les années 50-60, ce qui avait été le moteur de la course à la Lune, c'était la guerre froide. Les Américains voulaient rattraper les Russes qui avaient mis Gagarine en orbite. Aujourd'hui se joue la rivalité entre les Chinois qui sont allés sur la face cachée de la Lune et les Américains. C'est ça le véritable enjeu.
Je pense pas.
Merci.
Je pense que
l'humilité en fait, qui te sied.
Non, mais en fait, je pense que oui, on va le dire comme ça et ça va être le récit qu'on va faire. Mais en réalité, la Terre, elle a un seul satellite naturel et c'est la Lune. Et les Chinois, eux, ils ont des objectifs de programme spatial qui est très très simple. C'est acquérir progressivement toutes les compétences que les États-Unis et l'Union soviétique ont pu acquérir en leur temps. Donc ils ont même fait un tir anti-satellite à un moment quasiment pour les mêmes raisons.
Donc, rattraper leur retard et
montrer qu'ils deviennent des partenaires. Avec derrière des ambitions qu'ils ont réelles. Par exemple, s'il y a une mission un jour en coopération internationale sur Mars, c'est sûr que s'ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses sur la Lune, ils seront un partenaire en quelque sorte incontournable. Donc pour eux, c'est normal de vouloir aller sur la Lune. C'est tout à fait évident et logique que les Américains y soient ou pas. Après, les Américains, eux, ils ont un problème, c'est ce que disait Alain Serreux, c'est qu'ils ont un problème d'objectif. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers Mars. Ils ont fini la station, ils vont où ? Ils vont où ? Sur le seul endroit qu'on a, c'est le satellite naturel. Et comme ça fait quand même un peu bizarre en termes de communication,
ça fait un peu de la redite.
Que de refaire quelque chose qu'on a fait il y a 50 ans, c'est quand même bien pratique. Si on peut se mettre en situation de course vis-à-vis de la Chine, avec quand même de fortes chances de gagner cette course, dans la mesure où les Chinois, ils n'ont jamais dit qu'ils allaient poser un homme sur la Lune avec une date limite et une date butoir qui soit proche. Donc en fait, les États-Unis racontent leur propre histoire. Et comme cette histoire a déjà été vécue et qu'on l'accuse dans la tête, on le raconte aussi.
Alain Sirou, sur les Chinois.
On va être très pragmatique. Pour aller sur la Lune, il faut quoi ? Il faut une fusée. Elle n'existe pas. Elle est en construction.
Vous parlez des Chinois.
Non, je parle des Américains.
Ah, vous parlez des Américains.
Des Américains. Mais en tout cas, juste pour Trump et pour répondre à votre question. La fusée, elle n'existe pas. Elle est en cours de construction. Elle prend beaucoup de retard. On devait la lancer bientôt, mais finalement, c'est encore... il faut un programme. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne voit pas, on n'a pas de solution claire, visible. Il faut se poser sur la Lune. Il faut un vaisseau. Il faut un module lunaire. Il n'existe pas. Donc il faut le construire.
Pas grand-chose, quand même.
Non,
on a les cosmonautes.
Pas des astronautes. On a les astronautes qui disent qu'ils peuvent... Et puis, alors, le pire du pire, c'est qu'il faut des sous. Il faut un budget. Et pour l'instant, on ne le voit pas. Il n'y a pas non plus quelqu'un qui signe un chèque. Alors, à supposer qu'il y ait des objectifs qu'on ne connaît pas non plus pour rester à long terme. Donc ça fait beaucoup au bout du compte, finalement, pour
ça fait beaucoup
retour.
Pour pas grand-chose. Alors on va revenir à une période où il y avait tout, mais il n'y avait pas la couleur à la télévision. 72, décembre 72, on évoque, c'est les archives de l'INA, la mission Apollo 17, la dernière fois qu'un homme a foulé le sol lunaire. Regardez ce tremblé de l'ORTF de l'époque.
Vous voyez là Schmitt qui procède à un carottage du sol de la planète. Vous savez, et je vous l'expliquais hier, qu'à l'aide d'un carottage de la planète avec Apollo 15, on avait mis en évidence dans la poussière de la Lune, on avait mis en évidence que le Soleil se déplaçait dans la galaxie, qu'il passait d'un bras à l'autre de notre galaxie en 200 millions d'années. Et regardez ces images, elles resteront inoubliables. On a appelé cela la danse le ballet de Houston.
Michel Chevalet, demain, en exclusivité pour 24 heures sur la Une, nous aurons un invité de marque.
Oui, nous avons un invité de marque. Cet invité de marque, eh bien, c'est l'astronaute d'Apollo 14, c'est Mitchell, Edgar Mitchell. Edgar Mitchell qui sera ici pour nous, sur notre plateau, pour nous donner ses dernières, les dernières impressions d'un astronaute lorsqu'il est sur la Lune, lorsqu'il va quitter la Lune, puisque c'est demain, en effet, qu'aura lieu, cette nuit d'abord, la dernière sortie, et le décollage de la Lune demain soir.
Et voilà, c'était en 72, merveilleuse archive. Claude.
En trois ans avant 72, on est en 1969, Armstrong met le pied sur la Lune, les Américains ont gagné la course, il dit c'est un grand pas pour l'humanité, un pas de géant pour l'humanité. Aujourd'hui, Isabelle Sourbès-Verger, si quelqu'un remet le pied sur la Lune, il dira plutôt maintenant les gars, c'est à nous.
Je suis pas sûre. Alors encore, je
pensais qu'on serait idéaliste encore aujourd'hui.
Je pense que ça dépendrait qui. Par exemple, les Indiens qui mettraient un pas, oui, sur la Lune, ils diraient pas c'est à nous.
Ils diraient on l'a fait.
Ils diraient on l'a fait, exactement. Et les Chinois qui vont ramener ces échantillons de la face cachée, ils, mm-hmm, vont dire on est les premiers, mm, à vous donner, à toucher des échantillons d'un endroit où on n'a jamais été creusé. Et ça, je pense que, ou même ramassé. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et l'idée de c'est à nous, etc., c'est assez ancien. Vous savez, il y a sur Internet, vous pouvez acheter des morceaux de Lune, ce qui est très sympathique. Vous avez un certificat, absolument. Oui.
Ça veut rien dire. Sympathique. Oui. Ça veut rien dire, que, en réalité. Ça ne nous appartient pas. Si on
le... non, ça ne nous appartient pas. Puis surtout, ils ne vous garantissent pas l'endroit où il est, votre terrain. Donc c'est quand même déjà assez compliqué. Et ce que je veux finir par dire, c'est que les Américains ont fait ça. Les Chinois ont eu l'idée de faire le même genre de choses. Ce n'est pas vraiment une arnaque. On vous vend un certificat, c'est pas très cher. Vous avez la possibilité d'être jeté. Sauf que les Chinois, ils se sont retrouvés devant un tribunal chinois qui leur a dit, mais attendez, la propriété du sol,
alors, ben justement,
elle n'appartient pas à l'État. Elle n'appartient pas à la Chine.
Xavier Pascaux, juridiquement, c'est quoi le statut de la